c'est dans la poche. Le podcast de l'Auditorium Orchestre National de Lyon. Clément Rochefort.
Aujourd'hui, au programme, la symphonie numéro 2 du Finlandais Jean Sibelius, écrite entre 1901 et 1902 et créée à Helsinki par le compositeur lui-même, à la tête de l'Orchestre Philharmonique d'Helsinki. C'est la plus jouée et sans doute la plus populaire de ces 7 symphonies, notamment parce qu'elle a été entourée, dès sa création, d'une vision politique aux allures de lutte nationale. Vision sans doute très fantasmée, mais qu'importe, les grandes légendes ont parfois la vie dure. Au risque d'y voir toute ressemblance fortuite avec des événements plus récents, il faut rappeler le contexte historique dans lequel Sibelius a composé son œuvre. En 1899, le Grand-Duché de Finlande faisait partie de l'Empire russe, mais il bénéficiait d'une relative autonomie. Mais ça, c'était avant l'arrivée d'un nouveau gouverneur, le général Nikolai Bobrikov, qui instaura de nouvelles mesures pour faire de la Finlande une province russe comme les autres, enrôlement dans l'armée russe, élargissement de l'usage de la langue russe, censure de la presse, etc., etc. En juin 1903, Bobrikov est assassiné par un jeune patriote finlandais, Eugène Schaumann, à qui Sibelius, en hommage, dédiera en 1909 une marche funèbre in memoriam. En 1899, Sibelius avait même composé un poème symphonique patriotique, Finlandia. Donc, quand il s'attelle à sa deuxième symphonie, la Finlande est en pleine rébellion contre l'oppresseur russe et Sibelius lui-même signe une pétition pour retrouver l'autonomie de son pays. Alors autant dire que quand Sibelius fait retentir cette œuvre aux accents triomphants à Helsinki en mars 1902, 3 soirs en l'espace d'une seule semaine, dans la grande salle de l'université comble, puis dans la salle de la maison des pompiers volontaires la semaine suivante, tout le monde se plaît à y voir un manifeste musical pour l'indépendance de la Finlande et l'affirmation d'un style national. Dans la presse, on peut même lire des analyses politiques de la structure de la symphonie. Protestation contre l'injustice qui, de nos jours, menace de dérober au soleil sa lumière et aux fleurs leur parfum. Andante. Préparation à la lutte. Scherzo. Combat pour un avenir meilleur. Final. Triomphe, lumière et confiance en l'avenir. Coda. Autant dire que malgré les dénégations de Sibelius lui-même, plus tard, il est difficile de séparer cette symphonie du contexte dans lequel elle a été écrite et créée. Mais disons qu'elle est victime de ce romantisme national qui irrigue les thèmes et la musique de Sibelius à cette époque. Voyons plus en détail ce que certains ont décrypté comme un programme politique dans cette deuxième symphonie. D'abord, contrairement à ce que prescrit la forme sonate, traditionnelle dans un premier mouvement de symphonie depuis la naissance du genre à l'époque classique, et où le compositeur expose un ou plusieurs thèmes très clairs avant de les triturer dans le développement pour mieux les réexposer à la fin, contrairement à cela, Sibelius démarre avec deux thèmes morcelés, fragmentaires, à peine mélodiques. D'abord une série de 11 notes qui ont l'air d'être comme improvisées par les cordes, comme quelqu'un qui rentrerait à tâtons dans un lieu qu'il ne connaît pas et où il n'a peut-être pas le droit d'entrer. Puis, clarinettes et hautbois entonnent un thème très pastoral, caractéristique du style de Sibelius, et qui installe la symphonie dans une campagne, dans une terre finlandaise aux vastes paysages intacts. Un peu plus loin, on repère un autre élément qui ancre davantage la symphonie dans sa culture finlandaise. Une grande tenue des bois et des cuivres, suivie d'un trille, c'est-à-dire une hésitation entre deux notes, et d'une soudaine chute d'intervalle. Une phrase qui semble calquée sur le rythme naturel de la langue finnoise. Vient ensuite ce qu'on pourrait appeler le développement. Sibelius joue avec tous ses motifs, thèmes, phrases, en les combinant de différentes manières, sous forme de 3 grandes séquences où l'orchestre s'agite pour arriver à un sommet solennel, un grand choral affirmé, torse bombé par les cuivres. « le premier mouvement s'achève tout aussi solennel et héroïque par la reprise des thèmes principaux, dont notre grande phrase péremptoire par les bois et les cuivres, la force de l'affirmation que certains perçoivent donc comme nationale. Le deuxième mouvement est sombre. Il nous entraîne dans les tréfonds. Tout commence dans le silence, seulement brisé par une grande marche inquiétante des contrebasses et des violoncelles, jouant pizzicato, c'est-à-dire sans l'archet, en pinçant les cordes. Les commentateurs nationalistes y voyaient l'expression du désespoir des Finlandais face à la domination russe, ou l'orage avant la lutte. D'ailleurs, tout au long du mouvement, bois et cuivre rompent le silence par intermittence, comme s'ils jetaient de grands cris désespérés dans la nuit. Au milieu, une lueur d'espoir, portée par un thème inventé par Sibelius lors d'un séjour en Italie et qu'il avait appelé « Christus », le Christ, un thème d'une grande douceur. Viennent ensuite de nouvelles phases d'inquiétude et de brèves accalmies qui nous emmènent à l'impétueux scherzo noté « Vivacissimo », très vif. Préparation de la lutte, ont pensé les commentateurs finlandais. Et pour cause, tout démarre par une course folle des croches des cordes, interrompue par trois explosions des cuivres. L'atmosphère se tend jusqu'au trio central, où un hautbois de nouveau très pastoral nous ferait presque oublier les tensions du front. À la fin, pas de pause, une grande arche se tend pour nous amener sans trêve au grand thème triomphal du final. Ce final, toujours selon la lecture nationaliste des contemporains de Sibelius, serait l'image du triomphe de la Finlande sur la Russie. Et donc, ce premier thème est comme une entrée des vainqueurs par la grande porte, portée par une marche implacable des timbales, du tuba et des roulements de trombone. On se croirait presque dans Star Wars. Arrive ensuite un deuxième thème chanté par les flûtes, puis les cordes, plus apaisées. Un thème qui nous amène au troisième, de caractère plus funèbre, chanté par le hautbois et la clarinette, pensé par Sibelius comme la mélopée d'un rituel runique. Mais les cuivres du triomphe ne tardent pas à exposer le quatrième thème, très clair, rutilant. Et comme si ça ne suffisait pas, Sibelius, au terme d'une grande marche, lance une ultime coda cuivrée par un soudain passage du mode mineur au mode majeur. Qu'il s'agisse d'une symphonie aux accents politiques, comme l'ont rêvé certains, ou bien de la musique pure, comme Sibelius s'en est toujours défendu, il est indubitable que nous avons là un des derniers et merveilleux exemples d'une musique finlandaise dans sa couleur, d'un romantisme intense mais collectif, qui referme la première période stylistique du compositeur avec panache et emphase. Cet épisode a été produit par l'Auditorium Orchestre National de Lyon. La version de la Symphonicité est celle de l'Orchestre Symphonique de la Radio Bavaroise dirigée par Marie-Siane Sons. Une version à réécouter dans son intégralité sur la plateforme de streaming Vialma. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le commenter, le partager et à l'ajouter dans vos favoris sur les différentes plateformes de streaming.